Moi, c'est Morgane de Lebida Pinto. Je suis une étudiante, en secondaire. J'ai 17 ans. Passionnée par le métier de profiler, j'aimerais en savoir davantage sur ce métier. Depuis mon plus jeune âge, je rêve de œuvrer pour la justice, d'aider les personnes, quoi. Mais je veux aussi, avant tout, comprendre ce qui pousse les criminels à agir de façon aussi violente. Qu'est-ce qui les a menés à faire de tels actes? Pour moi, le métier de profiler, c'est aussi avoir un mental d'acier et une bonne condition physique. Le mental, c'est pour pouvoir supporter les choses atroces qu'on risque de voir ou d'entendre. La bonne condition physique, c'est pour pouvoir poursuivre le criminel. Finalement, je me demande si ma vision du métier n'est-elle pas trop influencée par tous ces films, ces séries. Est-ce qu'ils sont proches de la réalité ou pas du tout? J'ai décidé de mener l'enquête. Première étape, rencontrer un criminologue. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Dans le monde du profiling, je pense que c'est un passage obligé. Dans mes recherches, je suis tombée sur Anouk Lebrun, diplômée d'une licence en criminologie. Et aujourd'hui, professeure. Je pense qu'elle fera l'affaire. En tout cas, c'est un bon début.
Vous travaillez pour Jack Crawford, n'est-ce pas?
Oui, en effet.
Puis-je voir votre accréditation?
Certainement.
Plus près, je vous prie. Plus près. Carte expire dans une semaine. Vous n'êtes pas du FBI.
Dans ma longue vie, j'ai d'abord fait des études de philosophie et puis après ça de criminologie. Alors ces études, je les ai faites il y a maintenant un petit temps, pas exactement, mais au moins 15 ans. J'ai travaillé quelques années dans ce domaine-là et puis bah, aujourd'hui, je fais autre chose. Donc quand on étudie la criminologie, en tout cas ici en Belgique, on a du droit, de la psychologie, de la sociologie et de la philosophie. C'est surtout ces quatre approches-là qui sont mises ensemble. Et elles sont mises ensemble autour d'une question, c'est la question de la délinquance ou de la déviance. Il y a des gens qui parlent même plutôt de déviance parce que c'est plus large que délinquance. C'est tout ce qui est, tous les comportements de refus de la norme et de la loi. Et donc pour étudier ce phénomène-là, on a besoin de la psychologie, du droit, de la sociologie et de la philosophie pour poser les questions un petit peu de sens, un petit peu plus large. Alors, il y a plusieurs approches en criminologie. À l'ULB, on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a deux grands courants en criminologie. Ils appellent ça deux paradigmes. C'est le mot un petit peu savant pour dire courant. Il y a un premier courant, qui est celui qui t'intéresse peut-être plus, qui s'appelle le paradigme du passage à l'acte. Et donc, dans ce courant-là, on étudie vraiment la personnalité du criminel. Du criminel, du délinquant, ou même du déviant, parce que c'est pas que les gens qui respectent pas la loi, c'est aussi, par exemple, il y a beaucoup de livres sur les bandes de jeunes qui font de la musique sous les ponts, dans les caves, et donc c'est aussi la marginalité, toute cette zone un petit peu entre le légal et l'illégal. Dans ce paradigme-là, du passage à l'acte, on étudie vraiment la personnalité du délinquant ou du déviant, et la manière dont il va passer à l'acte, ça veut dire dont il va à un moment donné ou pas commettre un acte délinquant, plus ou moins grave. Mais donc c'est vraiment une approche individuelle et qui va essayer de le comprendre de l'intérieur. Donc là, il y a beaucoup de psychologie. Et généralement, les approches de profiling, le travail de profiler, ça vient de cette approche-là de la crime.
Qu'est-ce que c'est que ce profilage comportemental dont vous faites la réclame ?
Eh bien... c'est une façon de déterminer la psychologie d'un criminel en analysant ses traits de caractère et les éléments des lieux du crime.
Ah, ça me plaît, ça ! Parlez-moi de ma psychologie.
Ed, je ne peux pas faire ça.
Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas ?
C'est du jargon, ça ne vous dira rien.
J'adore le jargon.
On en est encore qu'au tout début de nos recherches.
Ça ne vous a pourtant pas empêché de faire des confidences à la presse. Et vous avez dit en substance que c'était moi qui vous avais montré la voie, alors... il me semble que vous me devez une explication, Holden.
Il y a un deuxième paradigme qui s'appelle, c'est un autre nom savant, le paradigme de la réaction sociale. Moi, c'est plutôt là-dedans que j'ai étudié. Et donc, quand on est dans ce paradigme-là, qu'est-ce qu'on fait ? On ne s'intéresse pas tellement à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau et des émotions de la personne délinquante ou déviante, mais plutôt à comment est-ce que la société, elle gère tout ça. Comment est-ce que chaque société dans le monde, mais ici surtout la Belgique, organise et répond à la délinquance, à la déviance ? Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de manières d'organiser la justice et de répondre à la nature humaine. Parce que la nature humaine, elle est faite aussi de violence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça dans une société humaine ? Il y a une infinité de possibilités de réponses. Et bien, dans ce que moi j'ai étudié, c'est surtout ça. C'est est-ce qu'il faut une police ? Ah oui, laquelle ? Et ici, elle est comment ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Quelles sont les valeurs qui sous-tendent cette police ? Est-ce qu'elle pourrait être différente ? Même chose pour la justice, pour la justice pour les mineurs, la prison, évidemment. Mais donc voilà, pour moi je dirais que la criminologie, c'est une science humaine, c'est pas une science exacte comme la physique ou la chimie, c'est une science humaine. Science parce qu'il y a quand même toute une méthodologie pour analyser tous les phénomènes de délinquance et entre autres la statistique. Mais c'est une science humaine qui est faite de différents petits morceaux de disciplines et dans laquelle il y a différents courants. Et donc dans laquelle alors tu peux naviguer.
Alors, le criminologue, c'est fait. Pour poursuivre mes recherches, il me fallait trouver quelqu'un de terrain. En tout cas, quelqu'un qui a travaillé sur des dossiers concrets de criminels. Je dois dire que ça n'a pas été simple. Les profilers ne courent pas les rues. En surfant sur Internet, un nom revenait tout le temps. Danielle Zucker. Elle est partout dans mes recherches sur le profiling. Alors, Danielle Zucker, expert du profiling, RTL Info, 18 décembre 2020. Quand on parle, on peut mentir, mais le comportement nous trahit. Le soir, 12 décembre 2020, Danielle Zucker, quand je vois les peines prononcées pour viol en Belgique, je suis sidérée. Après une quantité d'appels téléphoniques et un nombre impressionnant de mails, j'ai su obtenir une rencontre.
Et voici mon collègue Holden Ford. On travaille pour l'unité des sciences comportementales du FBI.
Des scientifiques?
On fait de la formation, mais aussi des recherches. Et dans ce cadre, on interroge des gars comme toi.
Des gars comme moi.
Auteurs de nombreux homicides. Pour mieux comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites.
Vous croyez que ça pourrait aider?
Aider à quoi?
À nous guérir.
Aucune idée.
C'est pas simple de massacrer des gens. C'est une tâche difficile. Physiquement et mentalement, je crois pas que les gens réalisent. On a besoin d'évacuer.
Je peux me présenter aux auditeurs. Bien, je suis à la base philosophe. Donc j'ai fait des études universitaires de philosophie. Puis, j'ai fait des études de psychologie et j'ai un doctorat en psychologie. J'ai dirigé le service des urgences psychiatriques de l'hôpital Saint-Pierre pendant 16 ans, un bail. Et puis, justement, à propos des femmes violées que je voyais aux urgences à Saint-Pierre. Je me suis posé beaucoup de questions parce que je ne comprenais pas comment c'était possible de commettre des actes pareils, de violer quelqu'un, je ne comprenais pas. Et donc j'ai cherché à comprendre. Je suis d'abord allée au Canada pour suivre une formation. Il faut dire qu'à ce moment-là, j'étais aussi expert judiciaire, donc pour la justice, tant pour les victimes que pour les violeurs. Et donc j'ai vraiment cherché à comprendre ce qui m'a amené au Canada et puis ce qui m'a amené à l'école du FBI, donc les pionniers qui ont mis ça, cette technique au point, ont créé une société privée où ils continuent à travailler pour le FBI mais aussi pour d'autres entreprises en privé. Et voilà, donc c'était une dizaine de personnes d'un niveau tout à fait exceptionnel, vraiment le chef de l'espionnage et du contre-espionnage. Enfin, il y avait là des gens avec des profils invraisemblables. Et pendant, j'avais entendu parler de un des piliers de ces pionniers. Et je me suis mise en contact avec lui et j'ai demandé si je pouvais venir pour une formation. Il m'a dit non, on ne forme personne ici, personne ne rentre ici. Alors j'ai scié les côtes pendant un an parce que d'un autre côté, la justice me posait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Parce qu'il me manquait une technique, des éléments, voilà. Et donc, chaque fois, je revenais vers eux. Oui, mais on me demande ça, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Puis au bout d'un an, ils m'ont accepté. Donc, je suis allée là-bas, j'ai suivi la formation. Et puis, une drôle de circonstance ou de coïncidence. je travaillais tous les jours aux urgences avec la police. Parce qu'aux urgences, c'est normal de travailler tous les jours avec la police et le parquet. Et puis un jour, ce qui n'était jamais arrivé avant, j'ai deux policiers qui sont venus qui m'ont dit « On aimerait bien avoir votre avis sur un type qui tue des femmes d'un certain âge dans un quartier et c'est la psychose dans le quartier. » Et donc moi j'ai dit « Mais bon, je veux bien regarder le dossier, mais j'ai une petit début de formation de rien du tout. » Il ne faut pas me nommer expert parce que je ne le suis pas. Et alors, le lendemain, ils sont venus et on doit vous nommer expert parce que sinon, vous ne pouvez pas lire le dossier. Alors voilà, j'ai demandé aux États-Unis si je pouvais accepter d'être nommée expert parce que moi, je suis quelqu'un avec beaucoup de scrupules. Et donc, ils m'ont dit oui et si jamais ça ne va pas, on t'aidera. Ce qui était vachement sympathique. Et puis, ça n'a pour ainsi dire, plus arrêté. Voilà, j'ai travaillé sur les tueurs du Brabant aussi. Voilà. Et puis, comme j'expliquais, maintenant, parfois, ce sont des familles qui me contactent et des avocats pour avoir une autre perception du dossier, pour affûter leurs arguments, pour augmenter les chances que l'individu soit condamné et reconnu coupable. Voilà le parcours.
Il y a 40 ans, votre FBI a été fondé pour traquer John Dillinger. Aujourd'hui, nous devons faire face à des actes d'une extrême violence entre parfaits étrangers.
On traverse le pays pour enseigner aux flics les techniques du FBI.
Je peux vous embêter une petite minute ?
Elle a été retrouvée menottée et attachée au lit.
C'est fou ce que les gens peuvent s'infliger. Ils ne reculent devant aucune horreur.
Comment peut-on vous aider ? On devrait utiliser toutes nos ressources, interroger les personnes les plus calées dans les domaines les plus variés.
N'est-on criminel ou est-ce qu'on le devient ?
C'est pas pour moi, c'est le profiling d'une manière générale, c'est d'abord un outil d'enquête. C'est un outil qui aide la police à se mettre sur la piste des individus qu'il faut identifier. Difficile comme question, quels sont les prérequis pour faire le métier de profiler ? Difficile parce que d'abord il y a plusieurs voies d'entrée. C'est clair qu'il faut de la psychologie, mais c'est clair aussi qu'il faut de la criminologie. C'est-à-dire que à la fois la police peut faire ce métier, parce que tous les agents du FBI à la base ce sont des policiers. Après, ça a été repris par des psychologues qui font des études statistiques et des machins comme ça. Mais donc il y a véritablement plusieurs voies d'entrée. Mais c'est vrai qu'il faut, si on est policier, il faut apprendre ce que c'est que la psycho. Si on est psychologue, il faut apprendre ce que c'est que toutes les techniques policières aussi, parce que l'idéal, c'est en fait de collaborer. Alors ça, c'est une question que j'aime bien. Donc, quelle est la proportion de l'intuition par rapport à la méthodologie ? Zéro. Zéro. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les intuitions, c'est bien, mais ça ne sert à rien si ça n'est pas validé et étayé par des faits. Dans le profiling, ce qui compte, ce sont les faits. On peut avoir des intuitions géniales, ça ne va servir à rien si ça ne colle pas aux faits. Et ça, c'est une grande difficulté parce que parfois, les gens suivent leur intuition. Nous pas.
Comment lutter contre les fous si on ne sait pas comment les fous fonctionnent ?
Si je suis amenée à aller sur le terrain ? Non. Dans ma formation, nous n'allons pas sur le terrain. Pourquoi ? Parce que nous intervenons après. Nous n'intervenons que si tous les devoirs d'enquête de la police ont déjà été réalisés. On intervient quand un dossier est bloqué, quand ils ne savent plus quoi faire, mais qu'ils ont déjà épuisé eux-mêmes les techniques que eux connaissent. Alors ça, c'est comme un outil supplémentaire. Et ils font appel alors à nous, beaucoup plus tard. Ce qui n'est pas du tout un souci, parce que nous travaillons sur base du dossier. Ce qui ne m'empêche pas de retourner sur les lieux du crime, parce qu'on apprend toujours quelque chose quand on retourne. Ce qui ne m'empêche pas évidemment de travailler sur les photos d'autopsie, les rapports, tout ce qu'il y a dans le rapport est super important. Mais je ne suis pas obligée d'aller au moment où le crime a été commis. Alors par contre, en France, à la gendarmerie, ils ont une équipe de profilers. Ils n'ont pas de formation, ils se forment sur le tas. Je ne sais pas comment, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et ils vont sur la scène de crime. Donc c'est tout à fait différent.
Les psychopathes sont convaincus d'être tout à fait normaux. Ils sont donc quasiment impossibles à étudier. Mais vous avez trouvé une méthode s'approchant de la perfection.
Bonjour, mesdames.
C'est ce qui rend tout cela si passionnant et potentiellement significatif.
J'arrive à comprendre ces hommes, Debbie. La façon dont ils voient le sexe.
Et les femmes.
On n'est pas là pour sympathiser avec eux. On est là pour les électrocuter.
C'est un travail solitaire ou collaboratif, les deux. C'est vrai qu'on est beaucoup seul parce qu'on analyse et qu'on analyse chaque virgule. On dissèque complètement le dossier. Il n'y a rien, il n'y a aucun détail que tu ne connais pas. Tu connais tout, sur le bout des doigts. Mais donc ça veut dire que oui, c'est un travail solitaire, mais qui doit se faire en collaboration avec ceux avec lesquels tu travailles, que ce soit la police, que ce soit les familles, que ce soit un avocat. Il faut évidemment collaborer parce que l'autre détient aussi une partie de l'information.
Les serial killers, les profilers, inondent nos écrans et notre imaginaire. Il me fallait donc rencontrer un acteur pour mieux comprendre pourquoi cet univers attire tellement les auteurs, les réalisateurs, les scénaristes. Les séries pullulent en télé, en streaming. Je suis un peu tombée par hasard sur Ennemi Public, série produite par la RTBF et réalisée par Antoine Bourse. J'ai eu cette chance incroyable de rencontrer le serial killer, Guy Béranger, tueur d'enfants, multi-récidiviste, joué par le talentueux Angelo Bison. Après la criminologue, la profileuse, il me fallait un acteur. Et c'est chose faite.
Thank you. Guy Béranger avait déjà passé 20 ans derrière les barreaux lorsqu'il a demandé sa remise en liberté conditionnelle.
Angelo Bison, je fais ce métier, donc je suis comédien, surtout comédien de théâtre depuis maintenant une bonne quarantaine d'années. Et voilà, j'ai eu la chance de tourner un petit peu et surtout dans une public. Donc ça a été une expérience, c'est une grosse expérience cinématographique pour moi.
Louez le nom du Seigneur. Louez le serviteur du Seigneur.
Guy Béranger a tué des enfants, mais aujourd'hui, il a payé.
La dernière victime de Béranger avait 10 ans. Quand on l'a retrouvée, il était complètement vidé de son sang.
Noémie ?
Noémie ! Ah ah, Guy Béranger. Guy Béranger, c'est un psychopathe. Hein. Donc voilà, il a tué 5 enfants. En fait, il n'est pas du tout... parce qu'on a fait beaucoup le rapprochement avec Marc Dutroux. En fait, l'histoire a mélangé un petit peu Michel Martin, qui était la femme de Marc Dutroux et de Dutroux, car la femme de Dutroux, Michel Martin, a été recueillie chez les Carmélites. Et donc, le personnage de Guy Béranger a été accueilli aussi dans un monastère. Il a tué 5 enfants, mais il n'a pas abusé des enfants. Donc c'est vraiment quelqu'un qui tue pour le plaisir de tuer. Il n'est pas comme Dutroux, il a abusé des filles qui étaient avec lui. Donc c'est vraiment un tueur. Pourquoi on ne sait pas. Hein. Les psychopathes, moi j'ai un peu étudié des choses là-dessus. On ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce, comment. Voilà, c'est des personnages qui sont excessivement dangereux. Mais bon, on m'a demandé de jouer ça. Oui, moi je suis un peu habitué pour jouer un peu les dingues, les schizophrènes. J'ai joué à Althusser, le philosophe qui a étranglé sa femme dans un moment de folie. Donc je suis un peu spécialisé dans ces rôles un peu particuliers, ou si vous voulez, le côté obscur de l'être humain apparaît. Et j'aime bien, moi, en tant qu'être humain, me plonger justement dans les méandres du côté obscur et inexplicable de l'être humain.
La petite Devanache, elle a disparu. Il y a des flics partout.
Je vois un hélico dans toute la zone d'ici jusqu'au village avant qu'il fasse nuit.
On est en train de perdre du temps!
Je veux que vous l'interrogiez et trouvez-moi comment il a pu sortir de cette foutue abbaye.
Je peux peut-être vous aider à attraper celui qui fait ça.
Non merci, j'ai pas besoin de votre aide.
Béranger est un psychopathe dangereux.
Avec les réalisateurs, évidemment, on a beaucoup parlé, on a un peu répété, mais on a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. J'ai un peu lu Puis j'ai vu un peu la filmographie, parce que ce qui est dangereux quand on joue un psychopathe, c'est qu'il y a beaucoup de films où il y a eu des psychopathes. On pense notamment au Silence des agneaux, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Et donc, quand on aborde un rôle comme ça, c'est très casse-gueule, c'est très dangereux, parce qu'il y en a eu beaucoup, et de très, très bons.
Mais de vos efforts pour appliquer à vous-même cette extraordinaire faculté d'analyse. Pourquoi ne le faites-vous pas? Examinez votre conscience et écrivez ce que vous voyez. Mais peut-être avez-vous peur.
J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
Ça a été beaucoup de dialogues avec les réalisateurs. Ils m'ont demandé une chose un peu particulière. Enfin, le personnage de Guy Béranger a tué 5 enfants, qui est un crime, évidemment, touché à des enfants, c'était abominable, surtout après l'affaire Dutroux. Et ils m'ont dit, on veut qu'à un certain moment, le public ait presque de l'empathie pour toi. Et j'ai dit, mais là, vous êtes complètement siffle. Je ne vois pas comment arriver à amener le public et trouver un sentiment de sympathie. Parce que bon, un psychopathe ne reste pas moins un être humain qui a commis des monstruosités, on est bien d'accord, mais ça reste un être humain. Et puis, j'ai été très étonné de voir les réactions du public qui me disaient, c'est terrifiant avec vous. On éprouve presque de la sympathie pour vous et nous, on a honte de ça. Quand j'ai été recevoir le prix, parce que j'ai eu le prix à Paris en série Mania, j'ai eu le prix du meilleur acteur, et la présidente du jury, la directrice du festival m'a dit, ce qui est terrifiant avec vous, c'est qu'on ne peut pas vous en vouloir. Donc, quand elle a dit ça, j'ai su que quelque part, on était arrivé à ce que le réalisateur voulait. Donc, j'ai été très heureux d'arriver à ça.
C'est notre village, non? On va attendre encore combien de temps que les flics fassent leur boulot? Avant l'arrivée de Béranger, les gamins jouaient dehors. Il y avait de la vie ici. Et aujourd'hui, tout le monde a peur.
Si c'est lui votre problème, vous en faites pas. Parce que nous, ici, les problèmes comme ça, on les règle nous-mêmes.
Pour moi, ça a été une expérience nouvelle et tout à fait enrichissante. Et c'est vrai que bon, j'ai été récompensé comme meilleur acteur pour ce personnage. C'est vrai que c'est un personnage que j'aime bien, parce que quand on réussit un personnage comme ça, on a une certaine sympathie pour lui, parce qu'on est arrivé. Je suis vraiment très fier d'être arrivé au résultat dans lequel on est arrivé. Et on espérait qu'avec une saison 3, on pouvait aboutir à la cerise sur le gâteau en nous disant, voilà, on a réussi 3 saisons. Mais bon, on est dans l'expectative. Mais personnellement, retrouver Béranger avec grand plaisir.
C'était The Profiling, un documentaire réalisé par Morgane Delmita Pinto dans le cadre de Radio Clash, atelier radiophonique animé au sein de l'Entrelien, une implantation de l'école Escale. Mixage et soutien à la réalisation, Vincent Dascott et Damien Hancourt. merci tout particulier à Anouk Lebrun, Daniel Zucker et Angelo Bison.